Le retour de boulevard qui se poursuit jusqu'à 18h, 16h14. Si vous êtes sur Dufresne-Montmorency en ce moment, direction ouest, la bretelle pour la capitale ouest, c'est partiellement travaillé dans la voie de droite. Il y a des débris qui traînent à terre. C'est drôle, il n'y a pas beaucoup d'accidents aujourd'hui, mais il y a des cochonneries un peu partout sur la route. Fait que soyez prudents. Sinon, je regarde la carte. Capitale, direction est, hauteur Robert Bourassa. Quelques ralentissements. Ça se passe sinon sur la 20 ouest, dans le coin de Chemin des Îles. Honnêtement, pour le reste, ça va. On va souhaiter que ça reste comme ça. 26 degrés à l'extérieur, 31 ressentis avec l'humidex. Vous êtes à 16 ce soir des possibilités d'averse. Demain, ça pleut toute la journée. Et ça semble changer en soirée parce que demain soir, on devait mouiller. Et là, généralement, ce sera nuageux, mais on se prépare au soleil de jeudi, vendredi et samedi prochain, ce qui est une belle nouvelle. C'est loin, mais j'y crois. Vraiment. On est rendu à faire un tour d'actualité. On est dû, Max. Y a-tu quand même pas mal de stocks sortis ou on est dans nos vieilles pantoufles?
On est encore pas mal dans les mêmes affaires. On reste avec, sur la route, en fait. La 4e avenue qui serait toujours fermée entre la rue des Lilas-Est et la rue de la Colombière-Est depuis aux alentours de midi, je vous dirais, un accident impliquant une jeune fillette de 2 ans qui a été transportée à l'hôpital. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on ne craint plus pour sa vie. Le conducteur dans histoire-là qui a été prise en charge pour un état de choc. Ça serait vraiment un très triste accident là, de type enfant qui court un peu partout, des adultes qui essayent de le contrôler pour des raisons qu'on ignore un petit peu. Ben, à un moment donné, l'enfant s'est retrouvé dans la rue. Il y a des témoins qui disent, entre autres, je voyais dans le journal, que le conducteur n'était pas imprudent, qu'il n'a juste pas pu éviter l'enfant. Mais comme je vous dis, la bonne nouvelle, on ne craint plus pour la vie de la fillette de 2 ans. L'enquête qui était toujours en cours, là, ce qui explique, en tout cas, aux dernières nouvelles que j'ai, peut-être que quelqu'un pourra confirmer ou infirmer au 88-971-1021, mais la fermeture de rue toujours d'actualité. Le SPVQ qui a aussi eu à intervenir pour un autre type d'accident, je vais dire, là, sur la rue du Marais un peu plus tôt aujourd'hui, aux alentours de midi encore une fois. Un véhicule qui a comme foncé dans le bière et frites de la rue du Marais. Puis de ce qu'on comprend, il y a comme quelqu'un qui était entre le véhicule et le bière et frites. C'est un bien. Homme d'à peu près 70 ans de ce que je voyais passer. On ne craint plus pour sa vie non plus.
C'est surprenant quand même, hein?
Oui, pas pire. Là, vous devez vous dire, bon, un vieux qui s'est trompé de pédale. Ce serait un jeune conducteur qui se serait trompé de pédale. Même
bon,
que...
sais-tu s'il était, mettons, en boisson ou affecté par quelque chose?
On n'a aucune idée par rapport à ça. Bière et frites s'est permis une petite blague sur sa page Facebook en écrivant... on a-tu retiré... Ah non, je suis juste pas sur la bonne page, bière et frites. On a dit, vous pouvez choisir la sauce que vous voulez, mais trompez-vous pas de pédale. Là. C'était mieux wordé que ça, mais je trouve plus le post.
Vous pouvez mélanger les sauces.
Mais mélangez-vous pas dans les pédales, voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Audrey Pinchot. Bref, comme je vous dis, bonne nouvelle, on ne craint pas pour la vie de l'homme dans cet accident weird-là non plus. Je vous fais un petit suivi de dossier. On s'en était pas parlé encore aujourd'hui. C'était ce matin là, dans le Journal de Québec où il y a des organismes qui offrent des services de camp de jour adaptés qui déploraient le manque de financement qui les forçait à placer 200 familles de la région sur une liste d'attente. Et là, on a un suivi là, sur la plume de Stéphanie Martin dans le journal. L'administration Marchand qui ne ferme pas la porte à augmenter le financement des camps de jour adaptés pour les enfants handicapés. Par contre, ce qu'on dit, c'est que les autres paliers de gouvernement vont devoir faire leur part aussi, que les budgets sont... ce qu'on comprend, c'est que les budgets sont serrés, là, puis qu'on va peut-être être capable d'en mettre un petit peu plus, mais que si on veut servir toutes les familles, va falloir que les autres paliers de gouvernement acceptent de donner plus d'argent aussi. Parlant d'autres paliers de gouvernement, Ottawa qui va envisager toutes les options en réaction aux nouveaux tarifs douaniers annoncés hier par Donald Trump. Des tarifs qui entreraient en vigueur dans 29 jours. Fait que vous comprendrez que ça a le temps de changer une fois puis une autre. C'est ce qu'indiquait Mark Carney ce matin. Lui dit qu'il y a eu une conversation au téléphone avec Donald Trump et qu'ils se sont mis d'accord là, pour intensifier les négociations dans les 2 prochaines semaines. Ce qu'on a appris hier, c'est que Donald Trump voulait taxer à 50%. 5%, plus de 550 produits là-dedans, entre autres. Là, puis en fait, je ne vais pas tous les nommer, c'est à peu près tout.
Ça tire partout, là. C'est ça, ça n'a pas de...
Des bières, vins spiritueux, si on comprend que c'est vraiment une réplique directe au fait que ben des provinces ont dit on ne vendra plus de produits américains au niveau de l'alcool. Mais les bâtons de hockey aussi sont notamment visés par cette nouvelle taxe-là de 50%.
D'ailleurs, tantôt, on va prendre le temps de jaser avec Éric Sauvé, là, qui est président d'Innovigo, là, qui est une firme de consultation en renseignement, sécurité et défense. Fait qu'on va pouvoir jaser géopolitique avec lui, voir ce qu'il a à dire sur le sujet.
Et en point de presse ce matin, Donald Trump s'est fait demander, OK, mais là, ces tarifs-là, ça a-tu un lien avec les feux de forêt? Parce qu'on se souvient, Donald Trump avait dit, là, les feux de forêt canadiens viennent nous polluer, il va peut-être falloir sévir contre le Canada. Puis Trump dit que non, pour ces tarifs-là, mais il envisage toujours d'en rajouter d'autres tarifs qui pourraient être liés, eux, aux fameux feux de forêt canadiens. Pendant ce temps-là, Éric Duhaime, lui, ben, il aimerait ça revoir les bouteilles d'alcool des États-Unis sur les tablettes de la SAQ. Entrevue à Cube et au 99.5, le chef du Parti conservateur du Québec qui a lancé ce matin qu'il faut sortir les bouteilles qu'on a déjà achetées, qu'on a entreposées depuis un an et demi. Il faut dépoussiérer ça, les remettre ces tablettes. Pour lui, quand tu imposes des sanctions contre quelqu'un, c'est pas toi qui payes, c'est pas à toi que ça nuit.
C'est pas déjà réglé, ça?
Ben en fait, on avait eu il y a une couple de mois une nouvelle à l'effet que on avait trouvé une façon de faire la vente dans certains événements pour des bonnes causes et tout ça, puis que c'est des organismes qui pourraient toucher l'argent. Cela dit, j'ai pas l'info à jour, à savoir il en reste-tu de l'alcool américain tabletté. Dans tous les cas, de ce qu'on comprend dans le cas de la demande d'Éric Duhaime, c'est que lui, il voudrait en revoir de l'alcool américain sur les tablettes. Puis de toute façon, il dit qu'on n'a pas intérêt à embarquer dans le jeu de Donald Trump puis de faire les fanfarons, puis commencer à vouloir faire une guerre protectionniste, puis de mettre des mesures, puis des tarifs, puis des boycott, parce qu'il dit aujourd'hui c'est en train de se revirer contre nous. Et je termine avec ça, c'est une nouvelle sportive, mais qui vient toucher beaucoup, beaucoup de monde, mine de rien. Prime Video, la plateforme qui appartient à Amazon, qui va diffuser 7 matchs du Canadien en français au cours de la prochaine saison régulière. C'est des infos qui ont été rapportées par la presse ce matin. Puis c'est pas Amazon les diffuse, mais RDS puis TVA Sport aussi. Là. C'est de la diffusion qui sera exclusive à la plateforme de Prime Video. On sait pas qui va assurer la description ni l'analyse des matchs. On va-tu aller voler du staff à RDS puis à TVA Sport? Probablement qu'on va faire des offres à ce niveau-là. Ce sera intéressant à suivre. RDS, ce qu'on savait déjà, c'est que 45 matchs de saison régulière qui seront diffusés. L'année passée, c'était 60, donc on en perd 15. Le nombre de matchs diffusés à TVA Sport qui augmente passe de 22 à 32. On n'a pas encore tous les détails de ça, là. Tout ce qui est financier, combien ça coûte.
Ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir que les gens payent. C'est pas mal ça.
Ça, c'est sûr. Le consommateur qui veut voir ces 7 matchs-là va devoir payer.
J'ai trouvé l'information. C'est un article qui est sorti début février, puis on disait qu'à partir du 12 février, le gouvernement québécois autorisait les sociétés d'alcool du Québec, les SAC, à remettre sur les tablettes certains produits américains dont la qualité pourrait être altérée d'ici mars 2027. Et avec ça venait le fait qu'on avait l'autorisation par le gouvernement à faire don de ces produits-là, de l'argent, bref, à des organismes. Fait que c'est peut-être que c'est pas tous les produits qui sont sortis d'en arrière, mais vraiment ceux dont la qualité pouvait être altérée là, d'ici 2027,
date.
Exactement. Mais je pense qu'on peut tout sortir puis faire la même affaire. Là. Il y a un 15% de rabais en passant sur ces produits-là en plus. Là. Fait que le but, c'est de comme les liquider puis de donner l'argent.
On les a déjà achetés. Donc, ça change rien pour l'économie américaine. Après ça, ben Éric Duhaime va aller plus loin. Il veut qu'on arrête de faire des mesures de riposte. Ça, c'est un autre enjeu. Mais les bouteilles... Parce que des fois, on veut... Je trouve qu'on fait des boycotts symboliques là, t'sais, pour se donner bonne conscience. Mais si ces bouteilles-là sont déjà achetées aux Américains puis qu'ils sont dans des coffres chez nous puis qu'on ne fait rien avec, je comprends que les gens ont peut-être moins envie de les acheter, mais t'indiques sur les stands... T'sais, sont déjà achetés, la gang. Là. Fait que ouais. Ça donne pas plus d'argent dans l'économie américaine. Faut les passer, ces bouteilles-là. Puis en passant, c'est pas tout le monde qui veut boycotter non plus. Là.
27,2 millions de dollars, la valeur de l'inventaire des produits américains qu'on a retiré des tablettes en mars 2025. Fait que, tu sais...
Moi, je pense qu'on peut l'indiquer que c'est... on n'a pas mis fin au boycott. Ce sont des bouteilles qu'on avait avant l'imposition de tarifs. Maintenant, les gens prendront leurs décisions, mais ça va pas. Ça va rien enlever aux Américains qu'on les laisse pourrir dans un hangar.
Puis moi, si ça peut ajouter pour nous de donner cet argent-là à des organismes, je trouve que l'idée est fantastique.
Ben, mais ça viendrait pas changer la réplique de Donald Trump contre cette formule-là.
Il n'y a rien qui va changer ça.
Exact.
C'est ça l'affaire. C'est qu'ils nous donnent tellement rien en échange de rien qu'à un moment donné, on se dit, peu importe ce qu'on fait, ils nous donnent jamais de cadeaux.
De toute manière.
Il n'y en aura pas. Fait que même si tu te plies en quatre, même si tu remets l'alcool sur les tablettes, même si tu enlèves la gestion de l'offre, même si tu annules la taxe Netflix, pensez-vous vraiment qu'ils vont nous faire des cadeaux?
Non, on s'en sort pas plus, c'est ça. Ça sert à rien, Mané. Il faut être conscient de ça aussi. Là, toujours dans l'actualité, mais pas chez nous. Ceci dit, ça amène des questions chez nous, Anto. La France qui interdit les médias sociaux au moins 15 ans. La loi a été adoptée, là.
La loi est adoptée à l'Assemblée nationale, au Parlement français, mais il va rester une étape pour le Sénat. Mais c'est vraiment un objectif du président Macron, là, qui est à la fin de son deuxième mandat. Et c'est vraiment quelque chose qu'il veut qu'il soit mis en œuvre dès cet automne. En fait, même à la fin de l'été, le 1er septembre, c'est encore l'été. J'oublie des fois, on dirait que septembre, pour moi, c'est l'automne.
Oui, on s'en va vers l'automne.
Et dans le fond, ce que ça ferait en sorte, c'est que les plateformes de médias sociaux devront maintenant contrôler l'âge des personnes. Comme quand on veut aller, par exemple, sur un site qui est 18 ans et plus, puis il faut vérifier l'identité. Il y a des plateformes qui
existent comme ça. En cliquant « Oui, j'ai plus de 18 ans ».
En fait, ben c'est ça. Là, maintenant, il va falloir qu'il y ait un système de vérification d'identité. Et c'est ça la différence. Il y a des plateformes
numérique,
qui existent.
Identité numérique, Seigneur!
Il va falloir présenter des cartes d'identité comme telles. D'ailleurs, c'était une des choses qui choquait bien la gauche là, en France. Là, la France insoumise, tu fais que c'était bien épouvantable à la fin de l'anonymat sur Internet. Laissez-moi
et
rire.
Pourtant...
Nos données sont toutes sur Internet.
C'est ça, on est déjà foutus de toute manière. Ça serait juste une façon de nous protéger davantage.
Et il n'y aura pas de clause grand-père.
Hey, c'est là que je m'en allais. Tu fais quoi avec les jeunes qui ont déjà des réseaux sociaux en bas de 15
ans? Ils ont jusqu'en janvier pour fermer leur compte.
Hey boy.
Alors, à partir de septembre, tu ne peux plus ouvrir un nouveau compte si tu as moins de... C'est 15 ans, n'est-ce pas? Moins de 15 ans. Et si tu as déjà un compte, tu as 14 ans, tu as déjà ton compte et tu as maintenant jusqu'en janvier 2027 pour fermer ton compte.
Mais là, on s'entend-tu que ça... Ben là, je veux pas être défaitiste, là, mais ça se contourne, ces affaires-là? Je veux dire, ça fonctionnera peut-être pas parfaitement. Là.
Comme toutes les interdictions, c'est toujours possible de contourner, évidemment. Mais c'est sûr qu'on ajoute un niveau de difficulté supplémentaire. Tu sais, moi, je veux dire, je peux aller acheter des cigarettes puis de l'alcool à mon jeune au dépanneur puis y donner, c'est sûr. Mais comme société, t'envoies un message. Moi, je trouve aussi que ça outille les parents. Et j'en suis, là. Moi, YouTube, chez nous, là, c'est devenu...
C'est l'enfer.
L'enfer, là, total. Le fait, c'est niaiseux, mais de pouvoir dire à mon enfant, ben le gouvernement l'interdit, là. Moi, personnellement, ça m'aide comme
c'est
parent un
loi.
Petit peu. Ouais. Alors que quand mon enfant me dit, moi, tous mes amis ont un compte sur Snapchat, puis que moi, je suis le seul...
Mais c'est pas légal.
C'est ça. Donc, je pense que ça va quand même faire une différence. Et ça risque de faire des petits, cette loi-là, parce que la France ouvre la voie, mais il semblerait que dans toute l'Europe, en fait, la Commission européenne est en train d'étudier d'étendre la législation française dans toute l'Union européenne. Et on a vu des projets de loi similaires en Australie, en Nouvelle-Zélande, et on en a même un au Canada en ce moment.
C'est ça, j'allais te demander. Nous autres, on est rendus où par rapport à ça, là?
Bien, c'est un projet de loi plus global qui a été
qui est
déposé,
très, très, très flou, là.
Qui est trop flou, tu as tout à fait raison de le dire, et qui ne concerne pas juste l'accès aux médias sociaux, là, mais aussi la sécurité en intelligence artificielle. Mm. On en a déjà discuté dans les jours précédents, là, notamment sur les robots conversationnels pour mettre certaines limites pour pas que ce soit dangereux pour les jeunes ou pour les moins jeunes. Quand on regarde un peu ce que les experts disent sur l'accès aux médias sociaux chez les jeunes, honnêtement, ça fait beaucoup réfléchir. Il y a beaucoup de pédiatres, notamment, qui ont indiqué que l'omniprésence d'écrans, mais pas juste les écrans de façon générale, aussi vraiment l'usage spécifique des médias sociaux avait tendance à exacerber la crise d'anxiété. Là. Tous les jeunes font énormément d'anxiété, des enjeux d'estime de soi, la cyberdépendance aussi.
Ah, puis c'est pas nouveau, là.
L'accès aussi pour des cyberprédateurs.
Oui.
À 12 ans, tu n'as pas la même méfiance, la même expérience de vie. C'est très difficile pour les parents de contrôler. Puis on le sait là, que sur Snapchat, mais aussi dans certains jeux en ligne, on a vu toutes sortes d'histoires qui ont été médiatisées. Donc, est-ce qu'on va voir une amélioration de ces choses-là? C'est sûr qu'à partir de 15 ans, tu as le droit là, d'avoir accès à tes plateformes de médias sociaux.
Mais qu'est-ce qui rentre dans les plateformes de médias sociaux, mettons? Parce que je me dis, tu sais, tu veux quand même, à 15 ans, là, t'es assez ado puis tu veux quand même avoir une communication avec tes amis, tu veux, tu sais.
Le problème, c'est ça, c'est que, par exemple, Snapchat est devenu un mode de communication dans une gang d'amis, mais ce n'est pas que ça. Donc, en interdisant l'accès, par exemple, à Snapchat, probablement qu'on va voir les plus jeunes se diriger vers d'autres plateformes de communication.
WhatsApp
où ils
fonctionnerait.
Sont pas. C'est ça. Puis en Europe, WhatsApp, c'est gros. Là.
Mon Dieu, oui. Il t'oblige littéralement à le télécharger quand tu t'en vas voyager là-bas.
Mais tu vois, quand il y a un aspect, quand il y a plus qu'une fonction à une plateforme, YouTube, c'est un média social. Tu peux liker, tu peux commenter, tu as des abonnements, etc. Mais tu peux aussi juste poster des vidéos ou juste aller voir
consommer.
Des vidéos.
C'est ça. Pour YouTube puis WhatsApp, ça va être certaines fonctions où il va y avoir un âge qui va être demandé, des vérifications. Mais tu sais, YouTube, tu vas pouvoir aller voir des vidéos sans te connecter.
Sans te connecter. Tu sais, moi, par exemple, avec mon fils a le droit de regarder certaines vidéos sur YouTube, mais j'ai été obligée de mettre 1 million de règles qui m'incombent à moi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il cherche quelque chose de précis. Donc, je veux pas que l'algorithme lui pose... Parce que ça finit toujours par être du brain rot, là, vous comprenez?
Mais...
là, c'est de la merde, okay? C'est du sucre blanc là, qui nourrissent nos enfants sur YouTube. Et il n'y a pas le droit de liker, il n'y a pas le droit d'interagir. Il n'y a pas le droit de liker, il n'y a pas le droit de s'abonner. Puis d'ailleurs, c'est juste ça, là, la maudite vidéo. Là. C'est comme « like-toi si tu veux voir la suite de la vidéo », alors que tu vas l'avoir pareil, la maudite suite
t'as
de la vidéo.
T'as pas besoin d'avoir un compte. C'est comme Twitch, là, je veux dire. Pas obligé d'avoir un compte pour
ça. Je sais que Messenger pourrait rester accessible.
Oui, il y a Messenger Kids qui est complètement indépendant d'avoir un compte Facebook qui pourrait... Mais tout ça pour dire que ça va être le problème des plateformes. Donc, la législation que les Français ont déposée, ils disent pas « voici exactement comment vous devez faire ». Ils disent « arrangez-vous ». Mm. Voici la loi. Et vous devez vous y conformer. Les impératifs techniques, on s'en fout.
Ils font
arrangez-vous.
Quoi? Mettons que moi, j'ai un jeune à la maison de 15 ans puis il ne supprime pas son compte. Ou il en crée un pareil.
Je pense pas que le FBI
va
débarquer chez vous nécessairement.
Mais le problème est peut-être là dans ma tête. Parce que je me dis, si tu n'as aucune conséquence, ça sert à quoi de mettre une loi?
Oui, mais en même temps, tu as raison. Est-ce qu'il va y avoir des choses punitives quand la loi n'est pas respectée? Ça, c'est un point important qu'il va falloir surveiller. Mais dans les faits, il y a toujours moyen de contourner. Une loi.
Ah, toujours.
T'sais, moi, si j'achète de la bière à mon ado, il n'y a personne qui va venir m'arrêter non plus, probablement. Personne ne va s'en rendre compte, jamais. Par contre, si je me fais dénoncer que je ne respecte pas la loi avec mes enfants, ben il risque d'avoir des conséquences plus au niveau des services sociaux comme tels. Mais somme toute, je serais bien étonnée qu'il n'y ait aucun impact et que tout le monde contourne la loi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont pousser un soupir de soulagement d'avoir un message fort qui est envoyé.
Mais
je sais
qu'il va y avoir la génération test, là, ceux qui sont à 13, 14, 15 ans en ce moment. D'après moi, pour comme 2, 3 ans, ça va être rochant. Là. Mais je pense que ceux qui font des enfants là, ou qui ont des enfants en bas âge, c'est la
ça
normalité. C'est ça, c'est la normalité pour ces jeunes-là.
Je donne souvent le même exemple quand on parle de ces choses-là, mais moi, quand Internet est arrivé, les amis, là, j'étais en 5e année de l'école primaire. Puis là, on avait un ordinateur dans notre classe, puis c'était Netscape. Puis là, quand tu faisais une recherche, peu importe ce que tu cherchais, tu tombais sur de la pornographie. C'était Far West. Tu tapais chat. Tu sais, tu faisais un exposé oral sur ton chat. Chat. Puis là, qu'est-ce qui apparaissait, tu penses?
Une chatte.
Et voilà. Donc, ça a été le Far West. Puis après ça, il y a de plus en plus de règles qui ont été imposées. Puis on s'adapte. Puis moi, ce que j'aime avec l'approche française, c'est qu'ils disent, vous êtes capable d'innover en tabarouette pour faire du profit. Vous allez être capable d'innover pour être capable
protéger
nos jeunes.
Mais je trouve ça, honnêtement, mais je trouve pas ça fou du tout. C'est drôle parce que chaque fois qu'on amène ce sujet-là, on a tout le temps l'impression que ça marchera jamais, fait qu'on est un peu découragé. Mais j'ai l'impression que comme n'importe quoi, il y a une zone tampon. On s'adapte, ça va être long, ça sera pas parfait. Mais je veux dire, tu passes une génération,
le sel à l'école.
Ben oui.
Le sel à l'école.
Les jeunes sont d'accord en plus.
Ben oui, il y en a une couple qui sont pas d'accord. Puis c'est bien normal, on n'a jamais l'unanimité. Puis il y a des parents qui disent, il faut qu'ils apprennent à servir dans leur cellulaire de façon intelligente. Et moi, je rêve qu'on m'interdise des fois l'usage du cellulaire pour me donner un break. Je suis super dépendante. Interdisez-le, s'il vous plaît.
Vous êtes en boulevard 102.1. Le retour jusqu'à 18h. Je m'appelle Audrey Pinchot. Si vous venez de vous joindre, bienvenue. Max Larouche, qui est également Antonine Iacarini. Et au retour de la pause, on va parler géopolitique. Si vous avez des questions, là, on a quelques affaires à discuter concernant nos voisins. Donald Trump, qui cherche à se présenter comme un président dans l'action, hein, dans les dernières heures, dans les derniers jours, autant sur le plan militaire que sur le plan économique, en imposant ses tarifs, que sur le plan politique, il y a beaucoup de choses à dire. Et Éric Sauvé va se joindre à nous pour la première fois qu'on y jase. Il est président d'Innovigo, firme de consultation en renseignement, sécurité et défense. Et évidemment, on n'a pas le choix de parler de l'Iran aussi. Donc, si vous avez quoi que ce soit à ajouter, c'est toujours par texto que ça se passe au 88 971 1021.
Le retour.
Drôlement, si vous êtes sur les routes en ce moment, c'est là, on dirait que ça s'intensifie un peu, dépendamment des bouts, là. Capitale, direction Est, entre Henri IV et Laurentienne, c'est pas mal installé. Direction Ouest, à la hauteur de Laurentienne, c'est au rouge. Et la 20, direction Ouest, c'est entre la route du président Kennedy et Taniata. Route de Fossambeau, on sent quelques ralentissements aussi entre des Érables et de la Jacques-Cartier. Pour le reste, ça va, évidemment, s'il y a autre chose, 418-971-1021. Il y a toujours ces moments-là où on attend d'accumuler un peu, je dirais, l'actualité géopolitique pour avoir assez de stock pour prendre le temps de jaser avec l'ami Éric Sauvé. Éric Sauvé, qui est président du Novigo, firme de consultation en renseignement, sécurité et défense. Et à l'approche des élections américaines de mi-mandat, tiens, je vais dire, Donald Trump cherche à se présenter comme un président dans l'action. Hein? On entend beaucoup parler de lui, mettons, là, dans les dernières heures, les derniers temps, autant sur le plan militaire que sur le plan économique, que sur le plan politique, on dirait qu'il essaie de trouver des responsables, il essaie de faire jaser. Et on va parler de trois dossiers qui ont un lien, veux-veux pas, avec tout ça, à commencer par l'Iran. C'est une 10e nuit consécutive de frappe. Éric, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends?
Je t'entends très bien, toi?
Génial. Oui, je t'entends super bien. On te dérange en camping, là?
Là, je suis en camping en Ontario. Là. moi, je demeure à Gatineau, fait que on a roulé 5 heures vers l'ouest pour aller à Ouazaga Beach.
Oh,
la plus grosse plage d'eau douce au monde, en passant.
Oh! Écoute, ben, je vais te remercier d'être sorti de ton camping et de tes mini-vacances pour nous jaser géopolitique. Ça veut dire que tu es vraiment passionné, là.
Oui, j'aime ça beaucoup.
Je préfère Sable Beach de mon côté, par exemple. Ouazaga Beach est bien, mais es-tu déjà allé à Sable Beach?
Non, écoute, c'est pas un coin que je connais beaucoup. En fait, j'ai plus fait le sud de l'Ontario. Là, je suis comme... pas loin des feux de forêt en ce moment-là.
Mais mets ça sur ta liste, Sable Beach.
Ce sera pour une prochaine.
On fait un road trip, et qu'on vient juste de commencer. Là.
Bon. Hey, les États-Unis qui en sont maintenant à une 10e nuit consécutive de frappe contre l'Iran, est-ce qu'on assiste, Éric, à une intensification de la guerre en ce moment? Oh, Prémont, on l'a perdu sur la plage.
Ben.
Il va s'en vouloir. Bon.
Il va nous rappeler.
Je vais redonner. En fait, c'est moi qui dois l'appeler. Je vais redonner.
Mais je peux vous parler de la magnifique municipalité de Sable Beach, où j'allais souvent passer une partie de l'été quand j'étais jeune avec mes parents. C'est sur le bord du lac Huron. C'est près d'Ouazaga Beach. Mais c'est dans le temps où Ouazaga Beach, justement, était rendu tellement populaire que c'était crotté. Fait que Sable Beach, c'est comme l'alternative. Ou là, je pense que Sable Beach est quasiment devenu l'Ouazaga Beach. Fait que ça doit pas être tant mieux.
Faut toujours trouver la nouvelle plage pas trop
c'est
connue.
C'est ça. Puis dans ce temps-là, Sable Beach, c'est malade. Bref.
Écoute,
La boîte vocale.
Pense que, ouais, je maudit pense
Ouazaga Beach.
Hein. Colin. Bon, petit débat de petites secondes, là. On va essayer de le rappeler en direct, puis sinon, ben regarde, on se fera une pause, puis on réglera ça plus tard. Là.
Ou on pourra parler, là, j'ai une petite nouvelle dans ma poche arrière, là, si on a quelques minutes. On pourra faire ça en attendant Sable Beach.
Moi, je ne suis jamais allée ni à la baie Georgienne, ni vraiment en vacances en Ontario. Puis l'autre que je voudrais faire, c'est la baie de Fundy. Okay. Mais je trouve ça loin.
Ah, mais ça, c'est extraordinaire.
Mais bien que c'est extraordinaire.
Oui,
oh! Éric, t'es là!
J'ai réalisé que je parlais tout seul, j'étais parti pendant moins
d'un. Oh, c'est drôle! OK! On a essayé de te rappeler quelques reprises, on s'est dit les vacances l'ont emporté, finalement ça fonctionne pas.
Non, je parlais tout seul dans ma
voiture. Le pauvre! Et je te repose la question, OK, parce qu'on a vraiment tout manqué. Donc, ce que je disais, c'est que les États-Unis sont à une 10e nuit consécutive de frappe, puis je te demandais, est-ce qu'on assiste à une véritable intensification de la guerre?
Oui, mais comme je disais, ça s'est intensifié beaucoup parce que il y avait eu un protocole d'entente en juin. Un début de négociation devait négocier pendant 60 jours. Et puis, quelques jours après, les Iraniens ont frappé dans le détroit d'Ormuz des navires. Il y a eu une riposte américaine. Mais là, ce qui a changé la donne, ce que je racontais à personne dans mon auto, c'est que il y a 3 Américains qui sont décédés, 2 qui ont été frappés par l'Iran. Et un qui était en train de faire sauter au sol un drone iranien qui était tombé. Alors, moi, ce que je vois, c'est une logique de vengeance de la part de Trump et de son secrétaire à la guerre de frapper fort pour faire payer le prix des pertes américaines.
C'est ça l'objectif, dans le fond?
Bien, c'est ça le problème, c'est que l'objectif devrait être de mettre une fin à ça, soit de faire tomber le régime iranien, soit de les forcer à des concessions, soit d'avoir une négociation pour le détroit d'Hormuz. Mais on est dans une logique de œil pour œil, dent pour dent. Tu me frappes, je te frappe plus fort, sans vraiment avoir une sortie de crise. Et puis, ben, on parlait au début de l'émission des élections de mi-mandat. La stratégie iranienne, c'est d'étirer ça le plus possible pour faire mal à Donald Trump, pour que le Congrès soit peut-être moins favorable à la guerre en novembre. Mm. Parce que Donald Trump a des comptes à rendre au Congrès. Ça fait plus que 100 jours que cette guerre-là a lieu. Il a beau parler d'une opération spéciale. On est encore en 10 jours de frappe. Ça fait plus que 4 mois. À un moment donné, le Congrès, s'il est contrôlé par les démocrates, va commencer à se mettre le nez là-dedans et peut-être ralentir les ardeurs du président.
Mais on va-tu s'en sortir un moment donné, Éric?
Ça va être difficile d'avoir une sortie de crise autre que négocier. Négocier à une table des négociations avec le Qatar, le Pakistan. Le problème du côté iranien, c'est qu'on ne sait plus qui parle pour le gouvernement. Mm. L'ayatollah Khamenei, fils, n'a pas été vu depuis le 28 février, même avant, depuis la frappe qui a tué son père, son épouse et son fils. On pense qu'il est en vie, mais il s'exprime par communiqué. Les gardiens de la Révolution ont le haut du pavé et certains négociateurs pour le gouvernement iranien ne sont pas respectés par leur propre gouvernement. Donc, c'est difficile aussi pour Washington de savoir avec qui négocier et comment leur faire confiance aussi.
Deuxième dossier qu'on veut traiter avec toi, on est toujours évidemment dans les mêmes sujets, les nouveaux tarifs contre le Canada. Donc Trump, encore une fois, qui essaie de bien paraître. Mais pourquoi des nouveaux tarifs? Est-ce que c'est vraiment une question commerciale?
Ben, je te dirais qu'il y a la question des feux de forêt qui n'a pas aidé récemment.
Puis on va en parler.
On va en parler après. Mais l'accord de libre-échange, l'ACEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, devait être renouvelée avant le 1er juillet. Ça n'a pas eu lieu. Elle est quand même en vigueur, mais les négociations se poursuivent. Et comme tu as mentionné d'entrée de jeu, Trump veut montrer qu'il prend les choses en main. C'est déjà plein du Canada, du Groenland, du Danemark. En ce moment, une des façons de mettre son pouvoir en place, c'est de dire que le Canada va payer des tarifs de 50%, ce qui est énorme, mais les tarifs, on le sait, sont payés par les Américains. C'est des droits de douane pour dédouaner du produit canadien. Mais je lisais quand même, autant qu'on déteste qu'est-ce que Trump fait, qu'il y a une étude de KPMG, la grosse firme de consultation, qui disait que 4 compagnies sur 10 dans le secteur manufacturier déménageaient aux États-Unis ou pensaient déménager aux États-Unis.
Oh, ouais.
Donc, forcé d'admettre que sa stratégie à long terme d'écraser l'économie canadienne, force des dirigeants qui ne sont pas nécessairement pro-américains, mais qui veulent garder leur business en vie, de dire peut-être que je pourrais déménager de l'autre côté de la frontière.
Mais ça nuit aux Américains aussi, non?
Ben, écoute, ils sont en train de développer leur secteur manufacturier, mais le secteur manufacturier, c'est pas le secteur le plus en vogue. Je veux dire, ça fait longtemps que la Chine et le secteur manufacturier du monde entier. Les Américains devraient se concentrer sur les technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, la physique quantique, etc. Essayer de ramener des emplois à faible taux de rémunération, c'est peut-être pas la stratégie gagnante à long terme pour l'Amérique ou les Américains.
Tu as nommé, Éric, les feux de forêt, la fumée des feux de forêt, la responsabilité de l'Ontario. Là, Donald Trump accuse le Canada de laisser la fumée de ses incendies traverser la frontière. Tout le monde sait qu'on a un contrôle vraiment, vraiment là-dessus,
ben oui.
Précis. Là. Fait qu'on peut pas réellement se tenir responsable de ça. Là.
C'est assez incroyable parce qu'il y avait des républicains gouverneurs et prétendants gouverneurs qui avait commencé à sortir des messages sur les réseaux sociaux. Il y en a même un qui avait juste été jusqu'à dire « avertissement final aux Canadiens, on ne tolérera plus ça ». Comme si on pouvait contrôler et la fumée et le vent. Mais comme j'ai mentionné, je viens de traverser une partie de l'Ontario. Le nord, quand on passe au nord de Toronto, c'est juste ça, des forêts. Hein? Il y en a à perte de vue. Il y a beaucoup de feux de forêt. Il y en a beaucoup aux États-Unis aussi. Mais là, ça donne que le vent pousse vers le sud. De commencer à blâmer le Canada pour une mauvaise gestion de forêt, c'est non seulement ridicule, mais c'est aussi frustrant, sachant que quand il y a eu des énormes feux de forêt en Californie, qu'on a envoyé des pompiers, des combattants pour les aider, puis qu'il y a eu la première des choses, c'est plutôt que de dire on pourrait envoyer des équipes du nord des États-Unis vous aider, c'est de nous blâmer. Puis la logique des tarifs qu'on parlait tout à l'heure, s'inscrit un peu dans la même veine. Pour l'Américain moyen, c'est une façon de punir le Canada, parce qu'en ce moment, notre fumée descendrait jusqu'à New York et ainsi de suite.
Puis en même temps, ça lui permet de continuer de marteler que le Canada n'est pas capable de se gérer. Ça vient un peu justifier les velléités annexionnistes, des fois, du 51e État, puis ces discours-là.
Surtout que Trump aura dit ce matin que le Canada ne pouvait pas survivre sans les États-Unis.
Ben oui, ça le sert. Moi, je me demande, c'est quoi l'état de l'opposition aux États-Unis en ce moment? Quand Donald Trump dit une affaire comme ça, là, on va mettre des tarifs parce que les Canadiens nous envoient leur fumée. Est-ce qu'il y en a une opposition? Est-ce que ça fait réagir? Ou les Américains, ils pensent même pas au Canada puis ils s'en fichent un peu?
Je pense que tu as mis le doigt sur le bobo, c'est que le système américain est fait de contre-pouvoirs, en anglais de checks and balances, c'est-à-dire que le contre-pouvoir du président, c'est le Congrès, donc le Sénat, la Chambre des représentants. Quand le président, son parti contrôle la Chambre des représentants, le Sénat, ça va très, très bien. Mais il y a quand même moins de discipline de parti qu'au Canada. Au Canada, un libéral, peu importe où il est, doit dire comme son chef. Aux États-Unis, un représentant républicain d'un État ou du Sénat peut se positionner contre le président s'il n'est pas d'accord. Mais là, on ne voit aucunement ça. C'est l'aplavantrisme total du Congrès. Lui qui vient de décéder, Lindsey Graham, c'est quelqu'un qui avait dit que Trump, ce serait la pire chose pour les États-Unis. Quand il y a eu le 6 janvier, les émeutes, il a dit « c'est fini, on ne le supporte plus ». Et c'était un des plus fervents supporters de Donald Trump. Fait qu'on a affaire à des gens comme ça qui n'ont aucun scrupule, aucun principe, qui pensent seulement être réélus. Mmh. Ils savent très bien, les Républicains, que quand ils s'opposent à Trump, Trump étant très populaire dans la base républicaine, ils ne seront pas réélus. Donc, ils vont, dans le fond, avaliser tout ce que Trump dit et fait.
C'est pareil.
Il n'y a plus aucun contre-pouvoir.
Ouais. Et ça marche un peu, sa stratégie?
Bien, ça marche parce que le Parti républicain, c'est le rendu le Parti Trump. Mm. Par contre, au niveau fédéral, au niveau des États, au niveau complètement plus haut, il est quand même au taux d'approbation le plus bas des présidents modernes, c'est-à-dire qu'il est autour de 35 %. Il y a une personne sur trois qui le supporte, ou il y en a deux sur trois qui ne le supportent pas du tout quand on parle de toutes les gens de l'État.
Et pourtant, il a été réélu.
Oui, je sais. Mais ça,
c'est ce que je trouve fascinant.
C'est une anomalie, c'est dur à comprendre. Je pense qu'on va se pencher là-dessus pendant des décennies encore. Comprendre pourquoi qu'après 4 ans de Trump, il y en a qui ont décidé qu'on allait essayer ça.
Fascinant.
Sans aucun contre-pouvoir.
Éric, on va te laisser aller à la plage, profiter de tes vacances. Merci d'être sorti pour nous jaser géopolitique aujourd'hui.
Merci, à une prochaine fois.
Salut, à la prochaine. Eh oui, il faut être passionné, là. Pour sortir de tes vacances en famille, venir jaser en radio de géopolitique, là. Éric Sauvé, président d'Innovigo, firme de consultation en renseignement, sécurité et défense. C'est toujours lui qui vient nous jaser quand il se passe quelque chose dans le monde. Et dans les prochaines minutes, on va accueillir Sam Tremblay-Michaud. En fait, je dis accueillir. Sam s'en va au Michigan. On va jaser de ça, évidemment, mais on va parler actualité automobile. Puis aujourd'hui, on s'était dit qu'on essaierait de répondre le plus possible à vos questions. Fait que c'est là. 88-971-102, si vous avez des questions pour Sam Tremblay-Michaud, on vous avait mis aussi une publication là, sur Instagram pour aller proposer vos questions, mais on va l'avoir au téléphone. Il est comme en deux vols. Va s'isoler pour être capable de nous jaser.
Il y en a un qui est à la plage, il y en a un qui est à l'aéroport.
On a quand même des collaborateurs, oui, puis on a des collaborateurs dédiés, j'ai envie de dire. Fait que 88-971-102 pour vos questions auto. On revient avec Sam dans quelques instants.
Le retour. En plus, obtenez 2 ans d'entretien inclus sur certains modèles. Cet été, pour le meilleur prix sur votre prochaine Volkswagen, une seule destination, Laval Volkswagen.
Transformez votre logique en défense numérique avec les cybermenaces qui évoluent chaque jour. Et si votre esprit logique devenait une arme essentielle pour les contrer? La formation continue du Cégep de Sainte-Foy vous propose un programme de spécialisation en sécurité informatique offert de soir à temps partiel et entièrement en ligne. Développez des compétences concrètes tout en conciliant études, travail et vie personnelle. Détails et inscriptions au vousbrillez.ca. Début des cours cet automne. Ici, on ne recommence pas, on se transforme.
Venez créer des souvenirs en famille. Village Vacances Valcartier, une journée, c'est pas assez. Réservez en ligne pour économiser.
C'est l'événement L'Avenir commence maintenant de Hyundai. Je veux de la grosse offre sur le terrain. Marie-Lou, plan de match.
On entre en jeu avec le Tucson Preferred Attraction Intégrale 2026 en location à 99 $ par semaine et 0 $ d'acompte.
Oh, j'aime ça!
Puis on surclasse à la version hybride pour seulement 14 $ de plus par semaine à la location.
Continue!
On les assomme avec la garantie sur véhicule neuf de...
Il est en direct de l'aéroport, un autre qui décide de se dédier à ses chroniques à Boulevard 102.1. Il s'est trouvé un petit coin tranquille parce qu'il s'en va au Michigan. Sam Tremblay, Michaud, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce qu'on est bien connecté?
Je vous entends très, très bien. Bonjour.
On t'entend très bien aussi. La Mila, tu t'en vas au Michigan faire quoi au juste, hein?
Le Michigan, c'est Détroit. Détroit qui est la ville de l'automobile. Donc, je m'en vais faire des essais routiers avec Ford, qui est un des grands constructeurs importants justement à Détroit. Et on s'en va faire, à vrai dire, un test de véhicules sur piste. Donc, des fois, on a la chance de conduire un peu plus dynamiquement les véhicules. Et là, ben, je suis bien excité d'aller mettre ces bolides-là à l'épreuve.
Dans la catégorie essais routiers, justement, tu viens d'essayer le Kia Seltos 2027. On en dit quoi de ce char-là?
C'est un véhicule tellement important. Le Kia Seltos au Québec, c'est un des véhicules les plus populaires dans son segment. Pour le constructeur Kia, il est extrêmement important. Je vous rappelle que c'est un VUS sous-compact dans la catégorie des Subaru Crosstrek, des Toyota Corolla Cross de ce monde, une catégorie très lucrative.